Chapitre 73. Les yeux bandés, Vincent est assis sur un fauteuil qu'il trouve paradoxalement très confortable. Seules ses mains sont attachées, et même s'il a été capturé sans ménagement, aucune violence ne lui a été infligée. Il était sans doute le seul véritable spectateur de cette séance du théâtre d'ombre, car lorsqu'il a cherché à fuir, tous les visages se sont tournés vers lui au même moment. Il a alors reconnu bon nombre de ceux qu'il n'était pas pressé de revoir. Quelqu'un lui ôte son bandeau. Il cligne des yeux. L'homme à la lanière de cuir est debout tout près de lui. Deux de ses complices se tiennent en retrait et le dévisagent comme une bête curieuse. Il est installé au centre d'une sorte de salle d'audience, luxueusement meublée. Devant lui, deux trônes dorés inoccupés sont juchés côte à côte sur une petite estrade. Tout autour, l'espace est bordé de deux rangs de gradins vides, surmontés de nombreuses oriflammes arborant d'étranges croix sur fond de soleil rayonnant. Il paraît évident que le lieu n'a pas été construit pour la mystérieuse fonction qu'il occupe. Il s'agit plutôt d'un endroit préexistant qui a été réaménagé. Les planchers et les murs de bois, aperçus derrière le décorum, font plutôt penser à l'atelier d'un artisan. Que pouvait-on produire dans cette pièce avant qu'elle ne soit transformée en caricature de temple? Lorsqu'il a été capturé, bien que privé de la vue, Vincent a tout de même remarqué qu'on ne lui avait fait descendre ou monter aucun escalier. Cette salle se situe donc logiquement au même niveau que le théâtre d'ombre, peut-être dans un bâtiment contigu au cabaret qui lui sert de façade. L'homme à la lanière vient se placer face à son prisonnier.
« Il nous aura fallu du temps pour t'attraper. »
Sa voix est sereine, presque amicale, au point de dérouter Vincent.
« Le mage avait vu juste. Tu es malin. »
Il avait prédit que nous n'aurions pas à te courir après et que tu finirais par venir de toi-même. Nous t'attendions. La séance n'a été organisée que pour toi. As-tu apprécié? Vincent ne répond pas. L'homme reprend.
Je me nomme Joshua. Et aussi étonnant que cela puisse te paraître, nous travaillerons probablement ensemble très prochainement.
Vincent hausse un sourcil et ne peut s'empêcher de réagir. « Travailler ensemble, vous plaisantez ?» L'homme sourit et fait quelques pas.
« Tu nous crois différents l'un de l'autre, c'est ça? Tu penses que je suis une brute et que tu es un type bien ?»«
Je ne tue pas les gens. » »«
Je parie que tu serais prêt à le faire si cela pouvait sauver ceux que tu aimes, n'est-ce pas » »«
Pose-toi la question honnêtement.
À cet instant, tu as peut-être même envie de me sauter à la gorge. »
L'homme cherche le regard de Cavell, qu'il évite.
Cependant, tu as raison, nous ne sommes pas tout à fait pareils.
Moi, ce n'est pas pour protéger mon clan que je me bats.
Je ne suis pas dévoué à une poignée de mortels, mais à des idéaux qui pourront sauver bien plus de monde.
Aurorae sacrum honorem.
Précisément.
Joshua marque une pause et cherche à nouveau les yeux de Cavell.
Approuves-tu cette époque, Vincent? Aimes-tu ce qu'elle fait d'hommes comme nous? Cautionnes-tu les valeurs qu'elle propose?
Vincent relève le visage et soutient son regard, mais reste muet.
Inutile de me répondre. Je te suis depuis assez longtemps pour savoir qui tu es. J'ai eu le temps de t'observer, de t'étudier et même de te comprendre. J'en sais sans doute plus sur toi que ses proches pour lesquels tu serais prêt à me tuer.
Vincent s'efforce de rester impassible, mais la teneur de l'échange l'entraîne sur un terrain imprévu. Tout aurait été plus simple si l'homme l'avait malmené et menacé comme le font les malfrats.
Joshua s'immobilise. Voilà quelque temps que je marche dans ton ombre. Ne m'en veux pas, il le fallait. Je t'ai vu te réjouir avec les tiens. J'étais là quand tu hésitais, juste avant ces rendez-vous avec tes clients. Je t'ai même entendu parler, devant la tombe, de cet horloger. Vincent accuse le coup, mais se contient. « Pense ce que tu voudras », ajoute Joshua. « Mais nous nous ressemblons plus que tu ne le supposes. Qu'espérez-vous de moi ?»« Que tu fasses ce que tu sais si bien faire. Rien de plus, rien de moins. Comprendre ces passages qui nous sont interdits, les déjouer pour nous permettre d'avancer. Si je refuse ou que je n'y arrive pas, je finirai comme Minguier. Ce n'était qu'un saut, réplique Joshua, qui s'amusait avec des idéaux comme un enfant se prend pour un chevalier avec une épée de bois. Il avait beau prétendre se mêler de grands desseins, rien ne comptait davantage que ses petits intérêts. Je l'avais à l'œil. Il s'est cru plus futé que nous. Comme le jeune homme qui a pactisé avec le diable. Tu finiras par te rendre compte que seule l'époque nous pousse à être violents. Excellente excuse. En attendant, vous avez éliminé l'homme qui vous servait. Il en va de Minguier comme de ceux qui épousent sans aimer. Lorsque le marché n'est pas respecté, il se rompt de lui-même. C'est aussi simple que cela. Lorsqu'il ne nous a plus été utile, il a été écarté. En quoi mon sort serait-il différent? Tu es d'une autre trempe. Je te l'ai dit, j'ai appris à te connaître. Tu suis ton propre chemin. Ta parole donnée t'engage. Tu éprouves le doute. Et plus important encore, tu es capable de raisonner au-delà de ta seule personne. Nous ne voulons pas t'employer. Nous souhaitons que tu nous rejoignes. Nous, une confrérie d'hommes et de femmes venus de tous les horizons, œuvrant pour que notre civilisation ne sombre pas. Une aube sacrée pour que l'avenir de l'humanité ne se résume pas à ce que l'on voit dans des vitrines. Nous pensons que rien de ce que l'on nous présente comme un progrès n'en est un s'il est à vendre. Joli programme, mais cela ne colle pas avec ce que Minguier m'en a dit. Il vous décrivait comme un nouveau pouvoir prêt à tout et capable de renverser les systèmes politiques. Joshua secoue la tête, réprobateur. Il n'avait décidément rien compris. Plus que les renverser, nous voulons les transformer. Pourquoi cherchez-vous le trésor de Nicolas Flamel? Parce que pour accomplir, il nous faut des moyens. Nos frères et sœurs nous offrent ce qu'ils peuvent, mais peu sont fortunés. Le mage a eu l'idée de retrouver les trésors délaissés. Par définition, plus personne n'en a l'usage. Nous ne volons pas, nous collectons ce qui n'est même plus supposé exister. Vous courez donc après l'or. Dans un premier temps, mais ce n'est pas notre unique but. À l'image de Flamel, nous associons richesse matérielle et spirituelle. Il était philanthrope, aidait les plus démunis en les logeant, en les nourrissant, en leur offrant du travail. Nos ambitions recoupent les siennes, mais nous les portons bien plus haut. La vision du mage préfigure un monde dans lequel il n'y aura plus à faire l'aumône parce que ce sera devenu inutile. Chacun trouvera sa place dans une société repensée, dont votre mage sera bien entendu le maître, plutôt le guide éclairé. Ce qui frappe Vincent, c'est la conviction qui anime son interlocuteur. Si certains aspects du discours peuvent paraître séduisants, il se souvient malgré tout que ses adeptes d'une civilisation parfaite ont commis plusieurs tentatives d'assassinat contre son équipe avant de mettre le feu à leur maison. Ai-je le choix? Que prévoyez-vous si je refuse de vous aider? Nous continuerons d'agir au nom de ce en quoi nous croyons. Ce sera plus compliqué sans toi, c'est indéniable. L'éventualité même que tu puisses te dresser sur notre route nous obligerait à te détruire. Tu as percé le secret de la cave de Flamel. À nous, si tu nous révèles ce qui se trouvait derrière, si tu nous remets ce que tu y as découvert, nous saurons te remercier. Sinon, La menace n'a rien d'ambigu. Vincent doit gagner du temps.
J'ai besoin de réfléchir.
Impossible. Attendre est un luxe que notre rendez-vous avec l'histoire nous interdit. Le monde a les yeux tournés vers Paris. C'est une occasion unique. Le destin n'attend pas. Ne sois pas en retard.
Je ne sais rien de vous.
Une fois encore, le mage avait deviné ta réponse. Pour te donner l'occasion de comprendre notre confrérie, il te propose d'éprouver au plus profond de toi ce qu'est l'aube sacrée.
Tu as de la chance.
Prépare-toi, il est l'heure.
Chapitre 74.
D'un coup de couteau, Joshua tranche le lien qui entrave les mains de Vincent. Le mage ne rencontre pas de prisonnier. Chacun se présente à lui en homme libre.
Libre de partir, ironise Cavell.
S'il le décide, oui. Vincent se frictionne les poignets, le sang recommence à circuler.
Ne prends pas cette rencontre à la légère, l'avertit Joshua.
Lorsque j'étais à ta place, elle a changé ma destinée.
Ne provoque pas le mage. Ne lui mens pas, il le saura.
Il peut faire parler les morts.
J'en ai été le témoin.
Il a le pouvoir de te faire vivre plus fort ou de te détruire. J'ai vu ceux qui en ont douté succomber sans même qu'il ait besoin de les toucher.
La dévotion teintée d'admiration que témoigne Joshua envers son maître intrigue de plus en plus Vincent. Il est presque impatient de découvrir celui qui l'a fait naître.
Il n'a pas à attendre longtemps. Quatre femmes en longues robes blanches font leur entrée dans la salle. Joshua invite Vincent à se lever.
Elles sont très jeunes, très belles, et marchent d'un même pas lentement rythmé.
Leurs tenues immaculées sont rehaussées de rubans rouges et or.
L'une porte un plateau avec une carafe de cristal et des verres.
Une autre serre contre sa poitrine un épais livre visiblement ancien.
La troisième tient un coffret en bois et la dernière exhibe une sorte d'ostensoire présentant un fragment que Vincent n'arrive pas à identifier.
Avec une solennité digne d'une procession, les jeunes femmes se positionnent aux quatre coins de l'estrade des trônes.
Vincent s'attend à voir entrer un roi de carnaval et sa reine, mais ce sont quatre hommes qui font leur apparition.
Très grands, musclés et vêtus comme des gladiateurs, ils portent les mêmes masques de cuir que celui qu'avait aperçu Vincent dans la cave de la maison de Flamel.
Ils sont si massifs qu'ils ne remarquent pas tout d'abord les deux individus qu'ils encadrent.
Mais lorsqu'ils les découvrent, leur apparence intrigue aussitôt Vincent.
Crâne rasé, vêtus comme des prêtres antiques, ils portent des robes très simples, l'une noire et l'autre blanche.
Le plus surprenant s'avère être leur ressemblance. Ils sont comme deux gouttes d'eau.
Et si leur démarche laisse supposer qu'ils sont assez âgés, leurs traits sont bien plus jeunes.
Vincent se dit d'abord que la cour du mage compte de bien étranges disciples jusqu'à ce que les jumeaux prennent place sur les trônes.
Joshua s'incline en signe de déférence.
Vincent lui demande à mi-voix.
Lequel est le mage ?
Ils sont le mage.
Bien que n'oubliant pas sa condition de captif et le pouvoir de vie ou de mort que ces deux êtres peuvent exercer sur lui, Vincent n'éprouve paradoxalement aucune crainte.
Le folklore, le cérémonial et l'apparence même de ces deux individus évoquent davantage pour lui une pièce du théâtre classique ou un simulacre de messe qu'une audience qui pourrait changer sa vie.
Les jumeaux possèdent des traits en tous points identiques.
Leur crâne lisse et leur visage fin pourraient même laisser penser que ce sont des femmes.
L'ambiguïté est entretenue par leur robe qui tient autant de la toge romaine que de la tunique grecque.
Impossible de deviner leurs origines. Il suffirait d'un rien pour qu'on puisse les croire asiatiques ou orientaux.
Cette impossibilité de les identifier par leur physique ou par leur sexe leur confère une aura aussi déstabilisante que fascinante. Leurs yeux sont pâles et de façon extraordinaire, chaque fois que le regard de l'un change de direction, l'autre fait de même, comme si un seul cerveau les commandait. L'être habillé en blanc s'exprime le premier. « Je suis satisfait de vous rencontrer enfin dans des circonstances favorables au dialogue. » L'autre enchaîne avec une déconcertante fluidité. « Je sais tout ce que vous êtes en mesure d'apporter à notre confrérie, et même si je suis certain de pouvoir vous offrir beaucoup, c'est d'abord moi qui ai besoin de vos talents. » Le blanc reprend sans rupture. « J'ai compris mon erreur en laissant se fourvoyer ceux qui voulaient vous utiliser par la force. Vous n'êtes pas de ceux qui plient. Le moment est venu de vous en demander pardon et de tenter de vous convaincre. » Vincent se sent mal à l'aise face à ces deux personnes qui disent « je » d'une voix identique. Les jumeaux se comportent comme s'ils n'étaient qu'un seul et même individu. La confrontation engendre une conséquence inédite qu'Avel ne sait lequel regarder dans les yeux. Il ne sait d'ailleurs déjà plus lequel a dit quoi, comme si tout dans leur attitude conduisait à les fusionner. « Vous avez des questions à me poser, » déclare le blanc. « Faites-le sans crainte. Pouvez-vous lire dans mon esprit ?»« Pas comme vous l'imaginez, » répond le noir. « Je ne suis pas un phénomène de cirque. Je ne puis extraire vos pensées de votre tête. Mais lorsque nous échangeons, ma sensibilité détecte le degré de vérité qui nourrit vos propos. » L'autre précise, « Disons que je perçois avec une acuité particulière ce qu'il est convenu d'appeler la sincérité. » Vincent réagit, « J'ai pourtant cru comprendre que vous aviez le pouvoir de faire parler les morts. » Les deux s'immobilisent. Mieux, ils se statufient littéralement, comme si leurs esprits prenaient le temps de se coordonner à travers un lien invisible avant de réagir. Lorsqu'ils se remettent en mouvement, leurs gestes parfaitement similaires leur donnent l'allure d'automates. « En quoi cela est-il important pour vous ? Aimeriez-vous entrer en contact avec des disparus ?» Si cette éventualité pouvait paraître crédible aux yeux de Vincent, il serait certainement intéressé, mais en l'occurrence, il ne dévie pas de son idée. Plutôt que de compter sur moi pour débloquer le passage de Flamel, pourquoi ne pas avoir fait appel à son esprit pour vous en révéler le secret ? Les deux mages sourient d'une façon si identique que cela en devient perturbant. Celui qui porte la robe noire répond « Doutez autant que vous le souhaitez, mais ne vous moquez pas. Libérez-vous du mépris, faute de quoi il vous empêchera toujours de découvrir ce que vous ignorez. » Le mage en blanc ajoute « Je peux effectivement entrer en contact avec certains défunts, mais il me faut pour cela passer par l'intermédiaire d'un proche vivant, avec qui il aurait entretenu des liens étroits. Il n'existe plus personne ayant directement côtoyé Nicolas Flamel. Voilà pourquoi il m'est impossible d'en obtenir les réponses que je souhaite. » L'excuse est imparable, mais ne convainc pas Vincent pour autant. « Vous n'avez cependant pas répondu à ma question, » remarque le noir. « Aimeriez-vous entrer en contact avec des proches qui ne seraient plus de ce monde ?» En dépit de son scepticisme, la question trouve cette fois un écho dans le cœur de Vincent. Il songe malgré lui à son père, à Étienne Bégel, à M. Robert Houdin. Il s'efforce de contenir l'émotion qui déferle en lui à l'idée de renouer le contact avec eux. Il n'est pas en situation de s'épancher. « Je sens un malaise en vous, » déclare le blanc. Je le perçois clairement. Votre esprit n'est pas en paix, je le devine. Et cette fragilité semble puiser sa source dans votre passé, ou plutôt dans un aspect de votre jeunesse dont vous avez été privé, complète l'autre. Vincent les dévisage à tour de rôle, incrédule. Leblanc insiste. Ces âmes qui vous hantent, ne vous sont-elles d'aucun secours aujourd'hui ? La dernière fois que Vincent a été ébranlé de la sorte, c'est lorsque Charles lui a révélé les secrets de son histoire liés à la perte de son père. Mais la situation était très différente. À Dinson, on avait eu connaissance par des moyens tout à fait rationnels et n'avait pas cherché à les mettre en scène. Ces deux énergumènes sont d'une autre engeance. Pour le déstabiliser, il pourrait très bien tenter d'exploiter ce que Joshua aurait réussi à espionner, ne serait-ce que lors de sa visite sur la tombe de Bégel. Vincent hésite. Même si jouer avec ses sentiments les plus intimes le gêne, il est prêt à tenter le coup pour voir jusqu'où ils seront capables d'aller. Il y a bien une question